tous, et oui, Radio Escapade Pirate saison des pirates, l'émission Escapade en Garrigue, parce qu'aujourd'hui c'est Garrigue en Escapade. En fait, on a inversé les rôles. C'est parti d'une blague qu'on a prise au sérieux au final. Qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière, Manu? Bon, au final, on va te poser des questions.
Hein, eh ben, ça marche.
Tu vas bien?
Ouais, très bien.
Ça fait bizarre du coup de te poser des questions dans ton émission, c'est rigolo. Et oui, du coup, pour cette dernière émission, c'est moi qui mène la danse. Donc, je vais te poser plein de questions sur toi, sur le collectif des Garrigues, sur plein de choses, sur la Garrigue aussi beaucoup. Et déjà, je voulais te demander, l'émission Escapade en Garrigue, elle existe depuis septembre 2014, du coup. Il y a eu une vingtaine d'émissions réalisées. Et comment s'est faite la rencontre entre Escapade et le collectif des Garrigues?
Alors, comment ça s'est fait? L'histoire, en fait, c'est quand on travaillait avec les écologistes de Lozière sur l'idée d'un atlas des Garrigues, d'un livre sur les Garrigues gardoises et roltaises, on a croisé le chemin de Anne-Françoise Volponi, qui anime un petit laboratoire de sociologie dans le coin, et qui a adhéré à la démarche du collectif des Garrigues, et qui, en parlant autour de l'idée de l'Atlas des Garrigues, s'est dit comment on pourrait faire pour intégrer dans ce livre des paroles d'habitants de Garrigues, pour pas qu'on ait que des visions de spécialistes, etc., et qu'il y ait aussi des paroles de gens. Et donc ça a démarré comme ça, en se disant, bah, tiens, Anne-Françoise connaissait Radio Escapade, elle dit, bah, tiens, je vais en parler avec Radio Escapade, qui, eux, sont souvent sur le terrain, font énormément de prises de sons, et ils pourront collecter aussi des sons. Et donc ça a été la première rencontre, on va dire, qui a été fructueuse, puisque dans l'Atlas des Garrigues, il y a plus d'une quinzaine de paroles d'habitants qui ont été collectées à droite à gauche, qui sont retranscrites dans le livre. Avec Anne-Françoise, on a continué sur différents projets, dont certains qui ont été en partenariat avec Radio Escapade. Et donc, petit à petit, les liens se sont resserrés jusqu'à ce qu'on me propose d'animer cette émission. Et comme j'aime bien les nouveautés, j'ai fait banco.
Banco, c'est parti.
C'est parti.
Et du coup, juste pour nos éditrices et auditeurs, rappelez un peu le collectif des Garrigues, en quoi ça consiste, depuis quand ça existe?
Alors, l'histoire du collectif des Garrigues, elle est à la fois jeune et ancienne. Ancienne parce que, du coup, c'est né de toute une dynamique qui a été mise en place d'abord par l'Association des écologistes de Lozière sur les Garrigues, sur la thématique des Garrigues, où on a animé une exposition itinérante, on a fait tout un tas de projets qui, petit à petit, ont fédéré plein de gens qui, eux aussi, avec leur vision, ont dit « bah moi, la Garrigue, ça m'intéresse parce que je m'intéresse au capitel, parce que je m'intéresse aux moutons, parce que je m'intéresse au champ des Garrigues, etc. » Et du coup, tous ces gens, petit à petit, bah, ils se sont rassemblés et ils ont dit bah, « on a envie de monter des projets ensemble. » Et donc, au début, c'était plutôt de façon informelle. Et puis, un jour, on s'est dit, bah, tiens, le collectif des Garrigues, on va en faire quelque chose d'un peu plus formel. Donc, ça s'est émancipé de l'Association des écologistes de Lozière. Et en 2013, c'est devenu une structure à part entière. Et aujourd'hui, c'est tout un réseau de quasiment 600 personnes.
Ce qui est assez conséquent quand même.
Voilà, assez conséquent, qui s'intéressent aux Garrigues et qui se rassemblent autour de trois objectifs. Le premier, c'est faire reconnaître cet espace de Garrigues qu'il y a entre les Cévennes et le littoral, faire reconnaître les problématiques particulières aux Garrigues, la problématique de l'incendie, etc., etc. Un deuxième objectif qui est d'être un centre de ressources. C'est-à-dire, quand on s'intéresse aux Garrigues, où est-ce qu'on peut avoir de la doc, des documents, des contacts, etc. Donc là, c'est est vivant parce qu'on essaye d'avoir un portail Internet très dynamique, etc. Et le troisième objectif, c'est d'essayer de faire un peu de prospective aussi sur les méthodos qu'on peut utiliser pour animer un territoire. Donc là, on s'amuse un peu à faire de la cartographie avec les gens, de faire
tout un tas de choses
de ce genre-là. Donc voilà, le collectif des Garrigues, en quelques mots, c'est ça. Et puis du coup, moi, j'ai été salarié du collectif des Garrigues donc, depuis 2013.
Depuis en cours, tu es arrivé en cours, ça existait déjà du coup.
Non, j'étais déjà aux écologistes de Lezière, en fait, c'est c'est mon poste qui a basculé d'une association à une autre.
Excellent.
Voilà.
Et du coup, je le disais tout à l'heure, ça fait à peu près une vingtaine d'émissions depuis le mois de septembre. Alors, on a eu plein de sujets, j'en ai noté quelques-uns quand même. Il y a eu l'eau au tout début, au mois de septembre, bizarrement.
Au bon moment.
Pile-poil. Il y a eu la forêt, les olives, le printemps, les salades. À chaque fois, tu avais des invités. Et du coup, quelle était la démarche de tes émissions, en fait ?
La démarche... Ben, l'idée de l'émission, c'est que c'est l'émission du collectif des Garrigues, c'est-à-dire que au sein du collectif des Garrigues, c'est un outil qu'on s'est approprié, c'est-à-dire quand on a envie de parler d'un sujet, on se dit, bah, tiens, il y a cette émission-là, et donc c'est souvent à l'opportunité, hein, on rencontre quelqu'un, etc. Ah, ce sujet, il est intéressant, est-ce qu'on pourrait pas communiquer dessus, le faire mieux connaître ? Et si t'es dispo le vendredi après-midi, tu viens à Saint-Hippolyte-du-Fort et puis on en fait une émission. Ça s'est souvent fait comme ça. Après, les sujets, effectivement, on a plutôt parlé du printemps au printemps, de l'eau, quand il y a de l'eau. Mais après, bon, voilà, ça a été un peu selon les opportunités. Et puis aujourd'hui, on voit que ça prend de mieux en mieux, puisque maintenant, la liste se rallonge de gens qui ont envie de venir participer à cette émission-là pour parler aussi de leurs associations, leurs projets, etc. On est assez large au niveau des thématiques, hein, du moment que ça se passe sur le territoire des Garrigues et que, voilà, on parle de Garrigues ensemble, quoi.
Ouais, le fil rouge, c'est la Garrigue, et après, c'est en fonction de l'actualité, des gens que tu rencontres. Et du coup, ça veut dire que tu vas continuer l'année prochaine, alors ?
Bah, en tout cas, il y a une demande.
Yeah, ça va être bien ça.
Voilà.
Ça va être cool, trop trop bon. Est-ce que du coup dans ton émission tu parlais d'associations, il faut que ça se passe sur le territoire des Garrigues et des paroles d'habitants dans cette émission, est-ce que ça serait pas quelque chose justement d'envisageable ?
Si, ça on y réfléchit un peu, ça serait intéressant. Alors il faut voir le comment quoi, hein, parce que faire venir quelqu'un dans un studio, etc. Il va dire ouais mais moi j'ai rien à dire, je connais pas le sujet, alors que il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, mais je pense qu'il va falloir trouver des trucs et astuces pour contourner ça. Mais oui moi ça m'intéresserait bien même, quitte peut-être même à imaginer des débats, des choses un peu avec des visions différentes qui
complètement
s'affrontent.
Complètement. Ouais, mais je te propose qu'on écoute un morceau de musique. Alors tu vois, j'ai choisi une playlist toute calme. Je sais pas pourquoi. Hier j'étais calme.
Bon,
alors, je suis
partie
dans quelque chose de tout doux. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. En tout cas, c'est Allez la Diane.
My eyes
Alela Diane et le morceau Pirates Gospel. Pour celles et ceux qui auraient branché leur poste en cours de route, vous êtes dans l'émission Escapade en Garrigue, où habituellement c'est Manu qui parle, mais en fait aujourd'hui on inverse les rôles, c'est moi qui pose les questions. Attention. Et du coup Manu, je vais continuer dans la lancée. J'ai perdu ma ligne, tu vois, parce que j'ai fait tout un papier avec mes questions et tout. Et donc, ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. À travers toutes tes émissions, tu fais parler tes invités sur la garrigue, mais pour toi, en fait, ça, elle représente quoi, la garrigue ?
Ah, c'est un vaste sujet.
Je me doute.
La garrigue, bah, la garrigue, c'est un peu le lieu de vie aussi. C'est là où on habite, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais c'est où que j'habite, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu ça. Après, moi, je suis du coin, enfin, d'à côté de Nîmes, là. Et je me rappelle, quand j'étais petit, mon grand-père, il m'amenait dans les coins de Garrigue. Il aimait promener tous ses petits-enfants le mercredi après-midi et le dimanche. Et du coup, voilà, il y a plein de souvenirs, quoi, de ces endroits-là, de tout ça. Donc, après, dans le truc, moi, je suis parti après pour mes études. Je suis parti en Bretagne pendant quelques temps.
Complètement différent.
Complètement différent. Et en étant là-bas, je me suis dit, tiens, quand je repense à d'où j'ai grandi, tout ça, c'est quoi, c'est où et du coup, voilà, il y a un peu ce mot garrigue qui revenait souvent. Et ça m'a intéressé un peu de creuser le truc, sachant que j'ai quand même un parcours un peu naturaliste. Donc voilà, tout ce qui est plantes, oiseaux, etc., et petits insectes, ça m'intéresse depuis longtemps. Et donc du coup, voilà, la garrigue, ça me parlait. Et j'ai remarqué que, ben, en fait, voilà, c'était au-delà d'un espace naturel, c'est un lieu, quoi, un lieu de vie de un peu particulier, avec des villages particuliers, avec des problématiques particulières, avec voilà, même des
une
petite histoire, voilà, et finalement qui était assez on va dire mis sous le tapis, quoi. On n'en parle pas trop ou de façon péjorative. Et je me suis dit, bah, pourquoi ? Et ça m'a intéressé, ce sujet m'a intéressé. Donc quand j'ai croisé la route des écologistes de Lezière, qui justement s'intéressent à l'aspect naturaliste, tout ça, bah, on s'est dit, bah, tiens, allez, on bosse sur les garrigues. Et voilà, et puis c'est... Pour moi, les garrigues, c'est à la fois un paysage, mais c'est un lieu de vie de gens, quoi. Et de gens qui ont tous leur vision du truc. Et souvent, quand on parle de garrigue, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un milieu facile, c'est pas un espace facile. Et voilà, vu de loin, ouais, c'est aride, c'est sec, bah, surtout en cette saison. C'est pas le truc facile du premier aspect. Et par contre, quand on commence à rentrer dedans, on commence à découvrir tout un tas de choses, et beaucoup, beaucoup de choses, au niveau naturalisme, mais aussi, voilà, on creuse quand on demande aux petits vieux de raconter tout ça. Tout ce qu'ils connaissent, tout ça, ou quand on discute avec un berger, la connaissance qu'il a des milieux. Et ça, j'aime bien ce côté un peu, voilà, c'est pas du tout cuit, justement. Il faut un peu rentrer dedans, et je trouve ça intéressant. Et je vois qu'en plus, il y a une demande aussi aujourd'hui de gens qui disent, ben voilà, ce coin-là, on a bien envie de mieux le connaître.
De plus en plus,
voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est un peu ça, quoi. Tout ça, la garrigue.
Bah, c'est clair que c'est des paysages, comme tu dis, mais c'est aussi beaucoup d'odeur, je trouve.
L'odeur, effectivement, ouais. Tous les sens sont marqués par la garrigue.
Ouais, moi, ce qui me marque le plus, c'est vraiment le parfum, quoi. C'est fou. Et comment on fait pour valoriser un territoire comme la garrigue, en fait ? Comment vous procédez ? Avec quels outils ?
Alors... Pour valoriser un territoire...
Alors, je ne sais pas si c'est valoriser le meilleur terme, mais informer les gens, la mettre en valeur dans un sens. Justement, tu parlais de la mettre sous le tapis tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, comment la faire ressortir au grand jour et la présenter aux gens, montrer que la garrigue, ce n'est pas que justement ce territoire sec et aride. Ouais. C'est aussi toutes ces petites choses. Comment vous travaillez, avec quels outils, en fait ?
Alors, les outils par rapport à ça, c'est de se dire comment on fait pour faire connaître. Et au-delà du faire connaître, il y a aussi parler d'eux. Et donc là-dessus, on a développé avec une expo itinérante ou avec énormément de temps de débat, de temps de discussion, de temps de rencontres. Donc déjà, ça c'est important. Ensuite, c'est faire croiser les regards. Ça, c'est vraiment important aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs regards quand c'est qu'ils se croisent, qu'ils s'affrontent, qu'ils deviennent complémentaires, etc. Et après, nous, on est quand même beaucoup sur l'idée que un territoire, enfin, la société, elle existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des communs. Et du coup, un territoire, c'est pareil. Un territoire, il existe parce qu'il y a des choses sur lesquelles on s'accorde que c'est notre bien commun. Et donc, du coup, nous, on s'est beaucoup appuyé sur cette idée-là en se disant ben, tout ce qui s'écrit, se fait, se dit sur la garrigue, on va le faire connaître et on va en faire du bien commun réutilisable par tous. Donc, en s'inspirant aussi de démarches du logiciel libre, par exemple, ou des choses comme ça, avec des licences ouvertes, etc. Et donc, de recréer du bien commun. Et du coup, c'est comme ça que ben, les gens vont commencer à en parler, vont avoir un intérêt, etc. Et puis après, y a le donc une fois qu'on a passé ce faire savoir, ça, c'est comment on fait émerger des projets. Et donc là, on a beaucoup de méthodos autour de ben, vous avez un projet sur ce territoire qui concerne les garrigues, comment on le fait monter, comment on y amène du monde, comment on le fait connaître, etc. Et donc voilà, avec des démarches très participatives, c'est ce qui fait, enfin c'est là un peu la logique du collectif des garrigues.
Et la richesse aussi du coup.
Après, c'est une méthode hein, pour valoriser un territoire. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des... Après, que nous, on ne maîtrise pas. Il y a des méthodes beaucoup plus institutionnelles, classiques, de mise en réserve d'une zone, etc. etc. Nous, on n'est pas trop là-dessus. Quoi. On est plutôt sur voilà, le côté dynamique. Voilà, on parle de garrigue parce que c'est aussi, ça fait sens et ça fait rencontre. Quoi. Voilà.
Complètement. Et du coup, vous avez publié un atlas magnifique, l'atlas des garrigues, regards croisés, t'en parlais justement. Je sais pas trop quoi dire sur cet atlas, parce que j'avoue que je l'ai pas fini, c'est 400 pages. C'est divisé en plusieurs catégories, il y a le cadre naturel, l'homme et la garrigue, quelle représentation de la garrigue, et à l'intérieur il y a différents chapitres. Comment vous, justement, vous avez travaillé sur cet atlas ? C'est à travers, justement, tous ces réseaux,
voilà,
tout ce que tu viens d'expliquer, en fait.
Ça a été, en gros, quand on a fait l'exposition itinérante sur les garrigues, qui a circulé pendant 4 années dans le Gard, dans l'Hérault, rencontré plein de gens, on a beaucoup débattu des garrigues. Et au bout d'un moment, on s'est dit, il faut qu'on s'accorde sur... Parce qu'il y a du débat sur tout, hein, garrigue avec S, garrigue sans S. Et du coup, il fallait qu'on s'accorde à un moment et qu'on se dise qu'il y ait un élément de référence. On parle de la Bible.
Ça veut ça quand même.
On s'est dit qu'il faut faire la Bible des garrigues. Et du coup, ça demandait un peu de boulot. Puisqu'on a fait ça a été 3 années de travail. 3 années, voilà.
D'accord, tu vois, je pensais que ça serait beaucoup plus.
Ouais. Après, l'idée, ça a été de se dire comment on dresse un regard le plus complet possible. Alors, c'est jamais complet, hein, bien évidemment, parce que c'est peut-être 360 pages, mais on aurait pu en mettre encore beaucoup, beaucoup plus. Mais en tout cas, d'avoir un regard, vraiment une vue d'ensemble sur la garrigue et ce qui se dit sur la garrigue, etc. Et donc, l'idée, ça a été d'abord de rassembler tout un tas de personnes intéressées et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait y mettre là-dedans. Et donc là, on a commencé à faire ce qu'on appelle un chemin de fer en termes éditorial, c'est-à-dire, ben voilà, on va parler de la géologie des garrigues, il faut que ça ait à peu près telle proportion par rapport aux autres thématiques, etc. Et ensuite, on est allé chercher des personnes qui connaissaient ces différents sujets. Et donc là, on a été dans un travail à très grand nombre avec chaque fois un référent par grande thématique. Excellent. Qui lui-même est allé chercher des auteurs. et des photographes, etc. Et donc, comme ça, on est arrivé à plus de 70 personnes, je ne sais plus précisément, qui ont participé à ce travail-là. Et après, ça a été difficile parce qu'il a fallu se dire quelle est la ligne éditoriale, c'est-à-dire la note qu'on voulait donner au bouquin. Parce qu'il existe des diagnostics de territoire, des choses comme ça, mais c'est des rapports en général difficiles à lire, et puis qui finissent sur des étagères d'administration, etc. Et nous, on s'est dit, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire quand même quelque chose qui soit... quand même diffusé au plus grand nombre, donc il faut quand même que ça soit un peu attractif. Donc comment on fait pour à la fois avoir cette qualité scientifique, parce qu'on souhaitait que ça soit solide au niveau du contenu qui soit amené, tout en le rendant agréable, etc. Donc là, il y a eu tout un travail sur les photos, enfin toute l'iconographie, un travail sur la façon d'écrire. Alors c'est difficile, hein, parce que quand t'as plein d'auteurs, ils ont chacun leur style, etc. Donc là, il fallait pas non plus être trop...
dans tous les sens.
Voilà, et donc donner un petit peu une ligne dire aussi aux gens, ben voilà, c'est un sujet passionnant, parce qu'il y avait des gens qui sont des spécialistes d'un tout petit domaine, mais ils pouvaient en écrire des pages et des pages, donc il fallait leur dire, ben vous l'écrivez en une page, etc. Et puis beaucoup faire une alternance entre justement, ben on parlait de paroles d'habitants tout à l'heure, de photos, de choses plus scientifiques avec des graphiques, etc. Des choses, des encadrés qui sont plutôt des anecdotes. Donc voilà, alterner au maximum. Et une particularité aussi qu'on a voulu mettre, c'est que il y a des sujets sur lesquels les spécialistes s'accordent, hein. Je parlais de la géologie, de la garrigue, à peu près connu, etc. Mais il y a des sujets qui sont plus complexes, sur lesquels il y a du débat. Et du coup, on a fait le choix de faire apparaître ces points de vue qui sont parfois contradictoires. Donc des fois, entre certains articles, il n'y a pas le même point de vue, mais c'est assumé, c'est voulu, puisqu'on est dans du regard croisé.
Justement, cette ouverture d'esprit, quoi.
Voilà. Et ça a été des longues discussions, hein, après ceux qui disaient mais non, il faut qu'on tranche, etc. Et non, c'est une réalité à un moment donné. On a voulu que ça soit une photographie à un moment donné on refera un atlas des garrigues dans 10 ans, quoi, voir ce qui a évolué.
Ouais, vous avez fait les repères historiques, il y a des photos magnifiques. Du coup, tu disais que c'était plusieurs photographes à chaque fois.
Voilà, alors là, c'est tout un tas de photographes qui ont amené leur contenu, beaucoup de gens du collectif des garrigues, des professionnels, des passionnés, un peu de tout. C'est assez diversifié au niveau des gens qui ont participé. C'est une grosse usine à gaz quand même, hein, pour faire marcher tout ça. Mais en même temps, c'est un projet motivant et qui faisait en tant que tel, ça a permis de la rencontre, ça a permis plein de choses à ce niveau-là.
Mais ça se sent quand on l'a dans les mains que c'est un gros travail. Pas forcément parce qu'il est lourd, mais... la manière dont il est construit, que... je sais pas. Mais on voit que vous y avez passé du temps et que vous y avez mis de l'énergie, en tout cas avec toutes les cartes. C'est vraiment... c'est facile d'accès. Il y a des atlas, tu peux y passer des heures et te dire « bon, je relis la même phrase parce que j'ai pas compris ce qu'il voulait raconter ». Alors que là, c'est vraiment accessible à tous, avec des images magnifiques. Et puis, c'est super intéressant, quoi. C'est découvrir la garrigue, mais sous un autre œil, angle. Je sais pas trop comment on peut le dire. Et en tout cas, cet atlas, vous en avez encore.
Oui,
à
bien
disposition.
Sûr. Voilà, donc cet atlas, donc c'est le collectif des garrigues qui en est l'auteur et les écologistes de Lezière qui sont l'éditeur.
C'est ça.
Au collectif des garrigues, on a bien sûr quelques stocks en dépôt vente naturellement. Sinon, il se trouve aussi dans toutes les bonnes librairies du coin. Hein. on peut le prendre aussi par internet sur le site des écologistes de Lezière. Ou directement chez les écologistes de Lezière à Prades-le-Lez, à côté de Montpellier. Donc le site, c'est www.eusiere.org. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on peut retrouver justement toutes les éditions, parce qu'ils ont édité l'Atlas, mais de nombreuses autres éditions passionnantes aussi.
Complètement.
Alors, Il y a une petite particularité à cet atlas, c'est que l'ensemble du contenu est dans une licence ouverte, c'est-à-dire que on n'a pas voulu mettre le petit logo photocopie-tu. Au contraire, c'est quelque chose, il faut le réutiliser. Alors, ça peut paraître contradictoire avec la vente d'un bouquin, mais on est au-delà de l'aspect juste vendre un livre, on est aussi dans diffuser la connaissance.
Et là, donc, c'est surtout rémunérer le travail que vous avez fourni,
voilà,
aussi, quoi.
Exactement.
Il faut remettre les choses en place aussi à un moment donné, quoi.
Et du coup, c'est vrai que voilà, tout ce contenu, il faut qu'il soit connu, diffusé, etc. Donc là, c'est quand même un point que je souhaitais souligner.
Ouais, bah tu fais bien. En tout cas, vous pouvez vous le procurer, comme l'a dit Manu, dans différentes librairies, chez le Haut Collectif des Garrigues, chez les écologistes de Lozère. Il est au prix de 44 € et je pense que ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire ou de Noël. Vraiment, j'insiste. Et on va faire une deuxième pause musicale,
bah oui,
avant de continuer. Alors tu vois, c'est encore tout doux. Et cette fois-ci, c'est Bess Orton. C'est pour ma maman.
Très bien.
Oh là là, pff, n'importe quoi. Wanna keep your dream alive? Can I keep it with mine? But I'm no good for you, I suppose. When you get a cold bath, you still hold me close at night. Never like you any less. World's not such a friendly place, is it? Can go very cold, very quickly, and for a very long time. If the sun by some twist of fate stopped giving out its shine. Like it's there to remind me we've got to wait and see. Didn't ask to be conceived in a loveless embrace. Still we learn to be a warm sun round a very cold. It's just like you said it could be. Oh, it's like you said it would be. Some of the time the future comes right round to haunt me. Some of the time the future comes round just to see that all is as it should be. Like it's there to remind me we've got to let. Orton avec le morceau Conceived sur les ondes de Radio Escapade. C'est toujours l'émission Escapade en Garrigue, piratée par Anouk. Et toujours Manu derrière le micro, quand même, en compagnie de moi-même, parce que j'allais pas animer son émission toute seule. On vient de parler du coup de l'Atlas des Garrigues, regards croisés. Et la Garrigue, c'est bien beau d'en parler. On a parlé un peu des paysages et tout, mais c'est situé où ? Où est-ce qu'on peut trouver cette Garrigue, en fait ? Parce que ça a l'air d'être assez large comme territoire.
Ouais. Alors, des Garrigues ou des milieux qui s'en rapprochent, il y en a beaucoup dans beaucoup d'endroits. En gros, partout, il y a un climat méditerranéen. Donc, en gros, autour de la Méditerranée, hein, bien évidemment, mais aussi, il y a un petit bout en Australie, un petit bout en Argentine, un petit bout en Californie, où on va retrouver des espaces comme les garrigues. Après, le mot garrigue, il est utilisé en langue française. Le terme plus générique, c'est le matoral, en général, qu'on appelle. Et le mot garrigue, en France, il définit les zones de végétation sèche sur sol calcaire.
C'est ça.
Contrairement au maquis. Le maquis qui est sur des sols acides, qu'on va trouver plutôt en Corse ou dans le Var, dans les Maures, là-bas. Un petit peu aussi dans les Pyrénées orientales. Donc, en France, on va retrouver des garrigues en Languedoc-Roussillon et en PACA, essentiellement. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, essentiellement. Néanmoins, on a essayé quand même de creuser un peu ce mot garrigue. C'est-à-dire que le mot garrigue, il ne définit pas que cette végétation. C'est-à-dire que c'est un mot qui va être utilisé aussi dans le langage pour définir des fois des paysages un peu plus largement que la végétation, c'est-à-dire un paysage de garrigue dans lequel il y a des oliviers, même de la vigne, hein, vigne en garrigue, etc. Et en plus, il va y avoir le mot garrigue qui va être associé à un espace géographique délimité. Et ça, c'est pas partout. C'est-à-dire que, par exemple, si on va à Nîmes, quand on va à Nîmes, les gens, quand ils vont se promener le dimanche, ils disent qu'ils vont se promener en garrigue. Si on est à Aix, en Provence, les gens, quand ils vont se promener le week-end, ils disent qu'ils vont se promener à la colline. Pourtant, le milieu est exactement le même. Et on voit que le mot n'est pas utilisé ici, alors que ce n'est pas du tout des gens qui ont des visions naturalistes, tout ça. Pareil, si on va dans les Corbières, par exemple, dans l'Aude, où il y a des très belles garrigues aussi, les gens, ils appellent ça les Corbières. Et du coup, l'espace géographique, ce n'est pas l'espace des garrigues. Et donc, du coup, on a essayé de définir où est-ce que les gens appelaient un espace ou un territoire avec ce terme de garrigue. Et ça, on l'a retrouvé dans le Gard et dans l'Hérault.
D'accord. Donc, en fait, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a la garrigue, ne fait pas partie du territoire des garrigues.
Voilà. Donc, on voit que dans cette logique territoriale, c'est-à-dire comme on appelle le territoire des Cévennes ou le territoire de Camargue, le territoire des garrigues est situé dans le Gard et l'est de l'Hérault, en gros entre les Cévennes, Ganges, Alès, etc., donc au sud des Cévennes, et au nord de ce qu'on appelle la faille de Nîmes, donc Nîmes, Montpellier, au nord de la Neuf, quoi. Mm. À l'est, à l'ouest, c'est entre le Rhône et la vallée de l'Hérault, donc Gignac, Agnan,
etc.
C'est
un assez grand territoire, quoi.
Voilà. Et donc là, dans tout cet espace-là, on a une grosse entité, qui a à la fois des caractéristiques géologiques, naturalistes, etc., mais aussi ces caractéristiques de gens qui appellent cet espace-là les garrigues. Alors, on a essayé un peu de creuser cette question-là en faisant, par exemple, de voir quelles sont les associations qui ont le mot garrigue dans leur nom. Et c'est vraiment rigolo, comme on en trouve énormément dans le Gard et l'Hérault, les associations ou les entreprises aussi. Et il y en a quasiment moins de 5, on va dire, en PACA. Alors qu'il y en a 150, 200 entre le Gard et l'Hérault. Alors, c'est tout type d'association. Hein. C'est le club de rando, l'association de joueurs de cartes, etc., qui ont le mot garrigue, quoi. Et donc, voilà, on voit qu'il y a une appropriation du mot garrigue dans cette zone-là qui est particulière. Ce qui nous a amené à essayer de faire des limites. Alors, les limites, c'est toujours... on n'est pas
avoir
fan
une
des
vision.
Voilà, on n'est pas un fan peu. Des limites, mais à un moment on se dit bah c'est quand même cette zone là sur laquelle on s'intéresse. En gros, qui va des garrigues du nord de Montpellier, ici les garrigues de Saint-Thibault, Pompignan, etc., jusque garrigues des gorges du Gardon, garrigues du Zès, Lucens, etc.
C'est étrange, cette voilà, PACA, c'est la colline, et ici, c'est les garrigues. Parce que Marcel Pagnol, dans son bouquin « La gloire de mon père », il utilise les deux termes.
Alors,
il utilise « garrigues » et « les collines ».
Donc, il appelle « les collines » quand il veut parler de l'espace géographique.
D'accord.
C'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on voit la grosse différence, justement, par rapport à ici, où on parle des garrigues. Les garrigues, dans tous les villages, ils ont leur zone des garrigues, au-dessus, là, la zone un peu sèche. Voilà, ils l'appellent comme ça.
C'est fou. Ouais. C'est beau aussi, les collines, quand même.
Ah oui, après, c'est un autre... voilà, on voit qu'il y a... Alors, c'est compliqué, parce que du coup, c'est un même mot qui représente plusieurs définitions, quoi. Donc, on a un peu cette... Après, si on creuse un peu cette question de la représentation, du coup, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça évoque, le mot garrigue, chez les gens? Est-ce qu'ils se sentent d'un territoire des garrigues ou pas? Et du coup, y a une recherche qui a été lancée, là, justement, on en parlait en début d'émission avec Anne-Françoise Volponi de l'association PASSIM, qui a été lancée en partenariat avec le ministère de la Culture, justement, sur... tous ces processus, justement, alors ils appellent ça processus de patrimonialisation.
C'est
comment,
un mot compliqué.
Voilà. Comment, sur un espace, on considère que ça, c'est du patrimoine qui nous appartient, etc. Et donc, du coup, il y a ce travail-là qui est fait sur la zone des garrigues. Et justement, il y a tout un questionnement qui est intéressant, quoi. Hein. Est-ce qu'on se sent des garrigues ou pas, si on habite à Saint-Martin-de-Londres?
Est-ce qu'il y a une identité,
quoi? Est-ce qu'il y a une identité? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des... Et là, on voit qu'il y a des visions très différentes qui ne se connaissent pas tant que ça, d'ailleurs, et qui se rencontrent, justement. Moi, je dis que les garrigues, c'était pas un territoire, et c'est en train d'en devenir un. Aujourd'hui, c'est en train d'en devenir un, parce que c'est un espace sur lequel il y a une envie, il y a des gens qui ont envie de revendiquer cet espace, cette localisation-là, ce lieu de vie-là. Parce que aussi, et c'est souvent ça, hein, quand il y a création de territoire, c'est parce qu'il y a des menaces, quoi. Et les menaces, elles sont importantes. Elles sont beaucoup liées par les extensions urbaines très importantes, par des changements de population très rapides, par des changements d'usage très rapides. Alors, c'était des zones agricoles assez pauvres qui, d'un coup, l'agriculture a quasiment disparu, avec des villages qui sont très vite grossis, etc., avec tout un tas de problématiques nouvelles, les grands incendies, etc., mais aussi... des problématiques de comment on vit au quotidien ces espaces-là, les loisirs dans ces espaces-là, comment on fait, etc. Et donc, c'est ces menaces-là, entre guillemets, qui ont fait, mais nous, on existe dans cet espace-là et on veut le revendiquer. Et donc, je pense que cette création de territoire, elle est liée un peu à cette menace de la métropolisation dont on entend parler un peu partout.
Mais c'est rigolo parce que... Quand j'étais petite, moi j'ai toujours cru qu'il y avait, par exemple, que la garrigue était déjà un territoire. En fait, il y avait les Cévennes et il y avait la garrigue. Alors que c'est même pas quelque chose de fait encore. Est-ce qu'il y a un travail fait avec les enfants aussi auprès de...
Alors du coup, on avait pas mal travaillé avec les enfants, avec l'exposition itinérante, où là on avait fait tout un tas d'animations avec justement des recueils de représentations. Par exemple, ça c'est passionnant, en début de... Il disait, qu'est-ce que c'est pour vous la garrigue? Et du coup, il devait marquer, on avait un arbre de représentation, chacun écrivait sa feuille, et puis hop, allez la mettre sur l'arbre. On a eu beaucoup, beaucoup de représentations, et c'était intéressant de voir comme, d'ailleurs, selon les villages, on n'avait pas les mêmes représentations du tout, hein, on voyait que les... Et là, aujourd'hui, on développe plus des choses autour de ce qu'on appelle la cartographie participative, c'est-à-dire comment, ensemble, on crée des cartes. on fabrique des cartes et qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre sur ces cartes, etc. Et donc là, on est en train de développer ça avec, avec des publics jeunes et avec des centres de loisirs, avec, avec des écoles. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Et c'est intéressant parce que justement, c'est quel regard on a sur l'espace qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce que c'est qui nous marque ? Et c'est intéressant de voir, par exemple, entre trois personnes, si on leur dit de faire la carte de leur village, ils ne vont pas représenter les mêmes choses. Et ils ne vont pas représenter même les mêmes distances, etc. Parce qu'ils n'ont pas le même usage spécialement de l'espace. Donc voilà, du coup, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse bien.
Bah, tu m'étonnes.
Voilà, et du coup, avec des enfants, c'est chouette de faire ce genre de choses en général.
Tu avais fait une émission justement sur la cartographie participative.
Oui. Effectivement, ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on développe beaucoup.
Qui est en cours en ce moment.
Voilà, comme on a fait un atlas qui dit atlas, dit des cartes, le problème des cartes, c'est ben, comment on les met à jour, est-ce qu'elles sont vraiment représentatives, etc. Et du coup, on a continué à utiliser cet outil carte, mais en se disant, ben, maintenant, on a fait parler des experts, etc., des scientifiques qui ont fait chacun leur propre carte. Maintenant, ben, allez, tout le monde s'y met, quoi. Et tout le monde s'y met, on va dans les villages, on fait les cartes, quoi. Et donc ça, c'est, voilà, ça nous amuse, comme je disais au début, au collectif des Garrigues, on aime bien tenter des choses, quoi.
Bah, il faut tenter les choses. Mais du coup, on retrouve, on y a accès sur votre site Internet.
Oui. Alors, c'est en train d'être mis en place. Donc là, si on va sur le site Internet, dans la partie collectif des Garrigues, on a nos chantiers en cours. Et dans nos chantiers en cours, on a voilà, tout le travail. Alors, il y a tout un tas de personnes. On est à la fois en lien avec des dynamiques qui ne sont pas que d'ici, hein, des dynamiques mondiales de OpenStreetMap, par exemple, qui est... construisons ensemble la carte du monde. Donc bah, nous, dans nos Garrigues, on participe à la construction de la carte du monde à notre petite échelle. Et puis tout un tas de démarches avec voilà, comment on cartographie les bancs publics, comment on cartographie la capitale qu'il y a derrière chez nous, comment on cartographie la vigne machin, comment on cartographie les points de vue qu'on aime bien, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un chantier actuellement qui nous occupe pas mal.
Excellent. Bah pour les auditrices et auditeurs, soit vous allez directement sur le site des collectifs des Garrigues, soit vous avez en podcast encore l'émission sur la cartographie participative sur le www.radioescapades.org, parce que je ne me rappelle pas du site du collectif des Garrigues.
Alors le collectif des Garrigues, c'est wikigarrigues.info. Voilà, c'est toujours notre...
qu'il y avait un wiki qui
ouais,
parle, mais
c'est,
plus où
c'est
il
notre
était.
Petite allusion justement à ces démarches participatives. Hein. Il y a Wikipédia, mais après il y a des wikis territoriaux qu'on
c'est
dit.
Ça.
Et donc il existe Wiki Brest, Wiki Manche et Wiki Garrigues.
On a encore quelques petites minutes pour discuter. Manu, tu as parlé de patrimoine et de rencontres. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux choses qui sont complètement différentes, je ne sais pas, choisis-en une, parce que moi, les deux m'intéressent, donc je vais te laisser choisir, en fait. Soit alors, les rencontres, soit le patrimoine, qu'est-ce qui va te brancher le plus, là?
Bon, allez, je parle de patrimoine, puisqu'on en parle souvent, ces temps-ci. Mais on va parler de rencontres, du coup, aussi, en parlant de patrimoine,
en fait,
d'ailleurs.
C'est lié, les deux.
En fait, l'idée de patrimoine, le terme, c'est qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est qu'on considère comme étant un bien qui nous est légué et qu'on va reléguer pour les générations futures. C'est un peu ça l'idée de patrimoine. Après, il y a plein de visions différentes du patrimoine. Alors, il y a une vision qui a beaucoup été mise en place dès la fin du 19e siècle sur patrimoine égale vieille pierre, quoi. Mais aujourd'hui, cette vision-là, elle explose complètement parce que on parle aussi de patrimoine immatériel, de les chansons qui se chantaient à un endroit, c'est aussi du patrimoine. Et puis, on remarque aussi que ben, du patrimoine, c'est aussi ce qui fait sens ensemble sur un lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est là qu'on rejoint le mot rencontre, c'est que on va considérer qu'il y a du patrimoine à partir du moment où on s'accorde à plusieurs à dire « oui, ça a un intérêt, ça a une valeur pour nous ». Et donc c'est ça qui est intéressant dans la recherche de se dire ben, « qu'est-ce que c'est qui fait patrimoine ici, entre nous ?» quoi. C'est que ça nous oblige à discuter, à dire « ah oui, ça non », etc. Et donc ce terme de patrimoine, il est intéressant pour ça. Après, c'est vrai qu'il a un peu cette connotation qui est un petit peu, des fois, passéiste, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je pense qu'il faut... Enfin, c'est super de l'associer au mot rencontre obligatoirement, quoi, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est...
Au final, ça rejoint aussi l'identité.
Voilà. Et puis, il y a cette, comme on dit, création de valeur. La valeur, c'est pas que la valeur financière des choses, etc. Il y a aussi la valeur que l'on donne aux choses. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on donne de la valeur. Et cette valeur qui est donnée, ça crée du patrimoine. Vous voyez ? Donc, c'est des termes... On pourrait le dire dans un total autre contexte, mais on peut le dire pour les garrigues aussi, quoi. Si ensemble, on se met ensemble, on se dit, ouais, ben, pour nous, ça a de la valeur, le fait d'avoir des espaces dans lesquels on peut se promener, machin, etc., etc. C'est pas rien pour nous. Et du coup, on en fait du patrimoine, quoi.
Non, mais on pourrait en parler pendant des heures. C'est terrible.
Bien sûr.
Parce qu'après, il y a aussi la gastronomie. Non, mais on n'en a pas parlé. Mais...
On va faire un rendez-vous des garrigues là-dessus.
Ah, ouais. Et vous avez la date ou pas du tout? C'est encore un projet.
C'est un projet. D'accord. Justement, ouais. Parce que là, on parlait de bien commun. Au niveau des. Là, il y a un vrai bien commun à partager.
Il y a des tas de choses à dire sur la garrigue. C'est terrible. Mais c'est vrai que c'est vraiment des paysages et un lieu magnifique, en tout cas.
Ouais.
J'avoue que je sais pas trop quoi dire là. Mais non, mais j'adore la garrigue et du coup, je sais pas. Je vais te laisser le mot de la fin, Manu.
Bon, et ben le mot là, de la fin, c'est rigolo d'être questionné. Du coup, ouais, le petit message que j'espère faire passer à cette émission Escapade en garrigue, c'est que les garrigues, c'est plein de gens en fait. C'est plein de gens et plein de gens passionnés par plein de sujets et je revendique le fait que ça soit des sujets super larges, l'occasion de faire des rencontres. Et du coup, c'est un peu un alibi, quoi. Un alibi à se rencontrer, tout ça. Et donc, j'espère que les auditeurs le remarquent aussi en écoutant cette émission.
Je pense que j'espère qu'ils l'ont bien compris, en tout cas. On te retrouve l'année prochaine, Manu, pour une nouvelle saison. Trop bien. Et du coup, tout au long de l'été, vous pourrez aussi retrouver les émissions Escapade en garrigue. Il y en a une dizaine qui seront rediffusées tout au long de l'été, une fois par semaine. Et vous savez quoi, je vais même vous donner les créneaux, hein, puisque je les ai sous les yeux quelque part par là. Alors, le lundi à 14h et le dimanche à 8h pour les touristes qui partent tôt à la rivière.
Très bien.
Merci beaucoup à toi, Manu.
Merci.
Passe de bonnes vacances et puis on se revoit très bientôt.
Très bien. Au revoir.